Et la question qui vous était posée hier, et on va rester bien sûr dans le même contexte, l'attaque du consulat iranien à Damas réduit-elle selon vous le risque d'une guerre au nord d'Israël? Alors Lise, est-ce que nos auditeurs ont tranché la question?
Oui, ils ont tranché, ils ont plutôt dit non. Donc on va demander son avis à notre invité. Ils ont dit non à 65% sur Facebook et non à 74% sur Insta. Je suis ravie aujourd'hui d'être en ligne avec Gershon HaCohen, général de division de réserve de Tzahal, qui a servi dans l'armée israélienne pendant plus de 40 ans, qui a été commandant du front nord, commandant des troupes au combat sur les fronts égyptiens et syriens et commandant des écoles militaires de l'armée israélienne. Major General Gershon HaCohen, thank you for being with us today on Radio Judaica.
Okay, thank you. Good morning.
We ask our listener if the Damas strike from Israel will help to convince Iran not to attack a lot more on the north of Israel. And our listener said no. What's your advice on that?
Of course, it will not convince them to change their whole plan. They are dedicated to a plan to demolish Israel since the days of President Khomeini. They are focusing their struggle not only to demolish Israel but also to take back Jerusalem, and it is so important for them. They exemplified that importance by deciding to take the last Friday of Ramadan, the following Friday this week, as the day symbolizing the whole expectations to come to Jerusalem. They called it Jerusalem Day, and it is so important that they succeeded by that to bridge the whole conflict between Shia and Sunni in Islam, a conflict of centuries. Now, the radical Islam, including Sunni and Shia, are dedicated to struggle against Israel and to take Jerusalem. So this Israeli attack in Damascus is a very important act, but not at all something that will change that whole dream of the Iranians.
Alors, oui, ça ne va pas changer leur vœu de détruire Israël. Ils sont absolument dédiés à cela depuis l'Iran de Khomeini et ils ont un vœu, un rêve qui est de reprendre Jérusalem, et c'est tellement important pour eux qu'ils ont même décidé que le dernier vendredi du Ramadan serait consacré à ça, qu'ils symbolisent cette attente de leur part. Et grâce à ce projet, donc ce Jérusalem Day qui a lieu vendredi prochain exactement, ils ont réussi à faire un pont entre les chiites et les sunnites qui sont pourtant dans un conflit qui remonte à plusieurs siècles. Mais là, ils sont tous ensemble réunis pour ce combat. Et cette attaque israélienne présumée à Damas, elle est très importante, mais elle ne va pas changer leur détermination de ce côté-là. You said, General Gershon HaCohen, that without an Israeli invasion of southern Lebanon, Iran-backed militants seems unlikely to withdraw to the Litani River. Is there another choice to permit to the 60,000 Israelis evacuated from the north to go back to their home? Vous avez dit que sans une invasion israélienne du sud Liban, c'était peu probable que les militants soutenus par l'Iran se retirent jusqu'au fleuve Litani. Est-ce qu'on a vraiment un autre choix si on veut permettre aux 60 000 Israéliens évacués du nord de rentrer chez eux?
Do you want to understand now about Hezbollah and
yes,
how we can change the situation to bring back the residents to the border.
Yeah.
Two ways are now bringing two options. One of them, without a total war. Actually, we have a limited war in the border every day, mm-hmm. but it is still limited to the range of the border. And maybe, not at all with high probability, that it will come to a kind of solution with a diplomatic effort of Amos Hochstein, the American mm-hmm. delegator.
Mm-hmm.
Maybe. We are not sure. It is an interest of the Americans, the French, European Union, and also an interest of other residents in Lebanon that are not supporting the Hezbollah adventure of war. It will mm-hmm. bring a disaster to the infrastructure of Beirut and a lot of other properties very necessary to the existence of Lebanon, and it is better not to come to that kind of war. It could really happen, and it means that the threat of Hezbollah maybe will take one step beyond the border, according to Resolution 1701, but still the main power of Hezbollah will exist as a threat against Israel.
Mm.
The other option is that no one will succeed to deliver a new stability that mm-hmm. will afford the residents to come, and Israel will be demanded for the basic interest of Israel, very justified interest, to fight against Hezbollah, and it will be a very dangerous war, but without a choice, it will really happen, and we will do everything in order to change the situation, to bring back sovereignty and stability to the border.
Alors, oui, si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la situation à la frontière nord d'Israël, il y a deux possibilités, deux options en fait. La première, sachant que aujourd'hui on a déjà une guerre limitée, mais qu'on voit tous les jours à la frontière nord d'Israël. Donc cette première option, qui n'inclut pas une guerre globale, c'est celle qui pourrait passer par une solution diplomatique par l'intermédiaire de l'envoyé spécial américain Amos Hochstein. Cette première option, elle est dans l'intérêt des États-Unis, dans l'intérêt de la France, dans celle de l'Union européenne et dans celle de la partie du Liban qui ne supporte pas le Hezbollah. Et donc, il s'agirait d'une solution diplomatique basée peut-être sur la résolution 701 de l'ONU et qui ferait reculer le Hezbollah plus loin de la frontière israélienne. Mais il faut comprendre que la force et le pouvoir principal du Hezbollah resterait toujours présent et serait toujours une menace pour l'État d'Israël dans cette première option. La deuxième option, c'est celle qui serait peut-être obligée, qu'Israël serait peut-être obligé de faire pour restaurer ses intérêts basiques et totalement justifiés de souveraineté, ce serait de mener une guerre réelle contre le Hezbollah. Et si on doit le faire, évidemment, on le fera. You said that no matter what, even if the Hezbollah will go after the Litani River, the Hezbollah is constructed to fight, even if they lose South Lebanon. Can you explain a little that? Vous avez expliqué un jour que même si le Hezbollah était repoussé jusqu'au fleuve Litani, il s'était construit de manière à pouvoir se battre, même en perdant la partie sud du Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Hezbollah is much more than just a terrorist organization. The logic is terror, but it is a well-formed military organization with depth, with first echelon, second echelon, and and Eshelon in the deep side, not only of Lebanon, but also of Syria and Iraq. So if we can destroy Hezbollah in the first Eshelon in South Lebanon, and get Hezbollah equipped with dozens of thousands of missiles that could attack Israel. They have more rockets and ballistic missiles than all European Union states together. And that threat will exist even if they will be pushed to withdraw beyond Litani River. And to destroy all these capabilities is not a short war, not a war of a month and not of half year. And we are expecting that it will not be really a necessity, and that with an effective military operation, we will succeed to create an equilibrium of calculation that will bring stability.
Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre que le Hezbollah est beaucoup plus qu'une petite organisation terroriste. C'est vraiment, ils ont de la profondeur, ils ont un deuxième échelon, un troisième échelon, et ils ne sont pas seulement présents au Liban, ils sont aussi présents en Syrie et en Irak. Et donc, oui, ça explique que même si on arrive à les détruire au sud du Liban, alors la menace qu'ils représentent continuera d'exister, même si on les pousse après le fleuve Litanie. Et il faut comprendre que le fait de détruire toutes ces capacités énormes du Hezbollah, il faudrait une guerre, mais pas une guerre qui dure un mois et même pas une guerre qui dure six mois. Alors bien sûr qu'on s'y attend et que ça fait un certain temps qu'on s'y prépare, mais il faudrait plutôt trouver un équilibre en fait par rapport à ces forces-là. You said, General Gershon HaKohen, that the IDF is not enough and that citizens need to be armed and be active in a national guard, and even old people can hold guns. Can you explain that? Vous avez dit que ça ne suffisait pas, que les citoyens israéliens devaient être armés, qu'on avait besoin d'une garde nationale active, et que oui, même des personnes de 80 ans pouvaient tenir des armes.
This is a very important lesson we can learn from all new warfare in the 21st century, including Ukraine. The well-equipped and trained military units are used to struggle and to be deployed in the center of the war. But war today includes a lot of other dimensions in which civilians finding themselves in the center of the struggle. Therefore, they must be ready and be equipped to defend themselves. It is very important, especially in the frontier, in places along the border that will assist the whole effort, that not with every occasion of the struggle, we will have to send the elite forces to save the residents. They must be ready to defend themselves.
Alors oui, et je le répète, c'est vraiment une leçon très importante qu'on peut tirer de l'étude de toutes les guerres du XXIe siècle, y compris de la guerre en Ukraine. Même si on a des troupes militaires très bien entraînées et des unités de combat qui sont au centre de la guerre, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les guerres ont de nombreuses dimensions et que les civils se retrouvent souvent au centre de la guerre. Et donc, il faut qu'ils soient préparés à se battre. On ne peut pas toujours et seulement envoyer des unités d'élite pour les sauver. Il faut aussi que les citoyens soient prêts à se battre. My last question, General Gershon-Hacohen, you said that the idea of President Biden to build a Palestinian state is a bigger threat for the existence of Israel than the nuclear forces in Iran. Vous avez dit que l'idée du président Biden de construire un État palestinien était selon vous une menace bien plus grave pour l'existence d'Israël que la bombe nucléaire en Iran.
First of all, we must learn the details, and it is really hard for not only people from abroad, but also for Israelis, even for Israeli parliament members, they are not at all familiar with the information and the details. Actually, a kind of Palestinian state was established already in 1996 by Yitzhak Rabin. He was murdered in 1995, but all his trends and decisions brought to a kind of Palestinian state in Judea and Samaria in Zone A, B, and in Gaza. The conflict remain about Jerusalem, about necessary conditions for Israeli security, like Jordan River as an isolated zone, and we cannot protect Israel just in the seashore. We cannot bring the border to be 15 kilometers from Tel Aviv. In that way, we can be endangered by Iranian militia forces penetrating to Judea and Samaria and located in the border near Kfar Saba, Tel Aviv. This is a very ultimate threat, and it means that we can say yes, but the Palestinian Authority can be a kind of a state in all what they have, but to demand Israel to risk itself, to give all territories to go back to 67 border by considerations of new military threats of 21st century, no way. Even speaking about Palestinian state that will be demilitarized, it is an empty promise, because today there is no difference between civilian devices and equipment and war devices. For example, drones. I can buy them in eBay. They are civilian devices. But immediately, as we can see a lot in Ukraine, and the same are used in Hamas and Hezbollah, they are transformed to be weapons. And we cannot really promise that they will not have drones, not have iron pipes. And they are necessary for everything, and with them you can build rockets. So we've learned the lesson, what happened in Gaza Strip, and no one can promise that what happened in Gaza Strip will not be repeated in a huge escalation in Judea and Samaria.
Oui, alors on doit absolument regarder tous les détails, et je parle pour tout le monde, pas seulement dans la diaspora, mais aussi en Israël, y compris chez les députés israéliens à la Knesset. Yitzhak Rabin avait prévu ce cas et dès 1996 avec la Judée Samarie et Gaza. Bien sûr, le conflit est toujours présent sur Jérusalem, mais en tout cas, on ne peut pas protéger Israël de manière efficace uniquement par la mer. On ne peut pas admettre qu'un État palestinien soit à 50 kilomètres de Tel Aviv, parce que ça veut dire que les milices iraniennes peuvent un jour pénétrer en Judée-Samarie et ensuite ressortir vers Kfar Saba, dans le centre d'Israël. C'est vraiment une menace ultime sur l'existence de l'État d'Israël, et c'est très clair. Et on ne peut pas nous demander aujourd'hui de risquer l'existence même de l'État d'Israël en revenant aux frontières de 60 67, il faut comprendre que les menaces militaires du 21e siècle ont augmenté. Et même si on parle d'un État palestinien démilitarisé, ça n'est pas réaliste, car aujourd'hui, même des choses que les civils peuvent avoir en main, comme les drones par exemple, peuvent rapidement être transformées en instruments de guerre. On peut les acheter sur eBay, vous l'avez vu dans la guerre en Ukraine, vous en Europe, et toute cette transformation des civils en armes est trop dangereuse. Donc, il faut absolument apprendre cette leçon de ce qui s'est passé le 7 octobre. L'invasion qui a été arrivée en Israël depuis Gaza pourrait bien arriver d'un autre côté. Thank you so much, Major General Gerson Hakohen, d'avoir été avec nous, général de division de réserve de Tzal. Have a nice day and good luck to Israel.
We are all wishing and praying. Thank you.